Toujours à Ça vaut le détour, vous pouvez réagir aux propos de nos invités sur les médias sociaux en utilisant le mot-clé CVLD. Et j'accueille en studio une de nos collaboratrices que vous aurez l'occasion d'entendre régulièrement sur Canal M. C'est un autre organisme qui inaugure sa chronique mensuelle cette semaine. Donc j'accueille Sarah Rouleau, qui est relationniste et responsable des bénévoles à la Fondation des aveugles du Québec. Bonjour, Madame Rouleau.
Bonjour, merci de l'invitation.
Ça nous fait plaisir. Il y a des statistiques quand même importantes. Au Québec, on compte environ 100 000 personnes qui vivent avec une cécité totale ou partielle. C'est là où est-ce que la Fondation des aveugles du Québec, en fait, peut vraiment faire une différence dans la vie de ces gens-là. Donc, elle rassemble tout ce qui est ressources humaines, physiques, financières disponibles pour venir en aide aux aveugles et aux amblyopes québécois. J'aimerais qu'on aborde tout de suite certaines activités, certaines actions que vous menez auprès de la communauté.
Ben oui, en fait, comme tu l'as bien dit, on travaille vraiment là, pour les personnes aveugles ou malvoyantes. En fait, on fête nos 25 ans cette année, donc ça fait 25 ans qu'on travaille très fort là, pour améliorer leur qualité de vie. Et nos différents services, on a entre autres, le seul service de loisirs spécialement conçu pour les jeunes aveugles ou malvoyants, là, on s'entend, donc qui ont entre 6 et 25 ans. Il y en a pour adultes, mais pour les jeunes, on est vraiment le seul. Donc, on a aidé des centaines là, de jeunes à avoir une vie active, à avoir une vie sociale. On les amène faire du ski, du rafting, de l'escalade, de l'hébertisme, de tout. Notre but, là, c'est vraiment qu'ils puissent être comme les autres de leur âge, dépasser leurs limites aussi, leur montrer qu'il n'y a pas de limite, en fait. Donc, c'est vraiment ça notre but. On a aussi un service d'habitation. Donc, on a, au cours des années, là, mis sur pied trois habitations adaptées et dont les loyers sont à faible coût. Donc, ça leur permet de... Souvent, on sait là, que les personnes qui ont déficience visuelle vont vivre dans la pauvreté. Donc, ça leur permet d'être autonomes malgré leur handicap parce que c'est adapté, c'est plus proche des services, etc. Et aussi d'avoir une meilleure vie, là, donc de pouvoir acheter se nourrir mieux, se vêtir mieux, pouvoir faire des activités. Et comme c'est des habitations là, pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, ils peuvent aussi s'entraider ou discuter là, des différents deuils ou étapes qu'ils ont à franchir. Donc, ça fait partie de la vie sociale. Dans les deux cas, là, que ce soit notre service de loisirs ou notre service d'habitation, on améliore vraiment leur qualité de vie en leur permettant d'avoir une vie sociale et aussi, de ne pas être isolé et de développer leur autonomie le plus possible.
Oui, et justement, si on parle des habitations, est-ce que c'est comme un peu une forme de coop ou ça va être plus des appartements adaptés au cas par cas?
En fait, c'est l'habitation, c'est le bloc qui est adapté. Entre autres, c'est ça, il est vraiment proche de tous les services. Exemple, le dernier qu'on a construit est à côté du métro Vio. Donc, l'épicerie, ça va être plus facile, etc. Les boîtes postales vont être plus grosses, adaptées pour pouvoir recevoir, exemple, des livres en braille qui prennent beaucoup de place. Tout va être plus simple aussi dans la façon de se déplacer. Les contrastes, pour ceux qui ont un résidu visuel, va être plus élevé. Donc, on va voir mieux les portes, les rampes, les escaliers, etc. Notre dernier, on a un ascenseur. Donc, c'est vraiment le bloc qui est adapté. Et c'est pas une coop, c'est un peu plus comme des HLM, donc que le loyer est en fonction de leurs revenus.
Mm-hmm. C'est vraiment réfléchi, en fait, pour justement donner le plus d'autonomie aux locataires, aux résidents qui sont là. Vous l'avez mentionné, l'aspect loisir, vie communautaire active est très important. Quel portrait de la clientèle, en fait, on peut dresser des participants à vos activités? Comment ça se passe, en fait, faire une activité d'hébertisme, par exemple?
Oui. Nous, en fait, depuis plusieurs années, les jeunes qui ont une déficience visuelle, ils peuvent être dans une école spécialisée, mais il y en a beaucoup qui sont intégrés dans les écoles régulières. Mm-hmm. Et malheureusement, les activités dans les écoles ne sont pas adaptées. Donc, on les exempte des activités parascolaires, des activités physiques. On leur dit, on comprend que tu as une déficience visuelle, tu ne seras pas pénalisé. mais tu peux pas faire l'activité avec nous parce que ils peuvent pas les amener avec eux. Mais c'est pas vrai que les jeunes sont pas pénalisés parce que c'est souvent dans des occasions comme ça qu'ils se font des amis, qu'ils développent leur confiance en eux, qu'ils développent ce qu'ils aiment, leur passion, etc. Et aussi qu'ils peuvent bouger, là, qu'ils peuvent faire de l'exercice physique. Donc, nous, c'est ça un peu qu'on a voulu comme répondre à ce problème-là. Donc, avec nous, ben au contraire, là, au lieu de rester là à ne rien faire, ben ils font du sport, ils se font des amis, ils se créent des liens merveilleux. Là. C'est un peu comme une famille à la Fondation. Puis, ils ne sont pas jugés sur leur handicap parce que tout le monde a une déficience visuelle avec nous. Donc, il y a pas de, c'est pas là-dessus là, qu'on met l'emphase. C'est vraiment plus sur leur haute qualité, sur leur personnalité, etc. Puis ils essayent vraiment de tout. Fait que l'hébertisme, mais ça va être grâce à un guide. Bien, toutes nos activités, en fait, toutes nos activités, c'est grâce à un moniteur qui est les yeux du jeune. Donc, qui va pouvoir lui permettre de faire l'activité là, comme les autres de leur âge, là, comme une personne voyante, parce que ce qui lui manque, c'est les yeux.
Oui, oui, oui. Donc, ça permet tout de même de faire une panoplie d'activités. Oui. La source principale de financement pour arriver à créer ces programmes-là, ces activités-là, ce sont les galas humour aveugle. Et la prochaine édition est le 6 février prochain au Théâtre Saint-Denis, qui est, je pense, presque la résidence officielle du gala aveugle. du gala humour aveugle, pardon. Juste nous décrire brièvement ce gala-là. C'est la 26e édition.
Oui, ça fait un peu plus de 10 ans que ça existe. On en a un à deux par année. Et c'est vraiment une dizaine à peu près d'humoristes connus et de la relève qui viennent faire un spectacle. Donc, c'est des spectacles qui durent assez longtemps. Là. Les humoristes, il y en a qui viennent 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Donc, on a la chance là, de voir plusieurs humoristes, découvrir d'autres qu'on ne connaissait pas. Et nous, ben, c'est ça, c'est un de nos plus grands moyens de financement. Et le 6 février prochain, il va y avoir, c'est animé par Jean-Marie Corbeil et François Maranda. Et dans les humoristes, il va y avoir Eddie King, Vincent C, les Denis Drolet, Julien Tremblay qui est en duo avec France D'Amour, en fait son amoureuse, Réal Bélan, Laurent Paquin et pour la première fois Jean-Michel Anctil.
Donc on aura peut-être vraiment... Priscilla qui viendra peut-être.
Je sais pas.
sur scène. Mais plusieurs humoristes très établis, très connus du public. Est-ce qu'ils adaptent leur numéro? Est-ce que c'est un numéro spécial qui est créé ou ils vont chercher quelque chose dans leur répertoire
non,
et le mènent au public?
C'est pas, ils ne créent pas pour nous. Par contre, normalement, ils ne refont pas un numéro qu'on a déjà vu soit de nombreuses fois à la télévision ou il y a certains humoristes là, qui reviennent à quelques reprises, soit peut-être pas dans la même année, mais on ne veut pas un numéro qu'ils ont déjà fait parce que souvent le public revient. De gala en gala. Donc, souvent, c'est des nouveautés. Parfois, ils testent leur numéro sur nous, mais c'est toujours excellent.
Mais donc, ça va être peut-être l'occasion, justement, de voir du nouveau matériel. Est-ce que, dans le public, est-ce qu'on trouve, justement, beaucoup de jeunes qui ont une déficience visuelle et qui, ça peut être aussi un premier contact avec le monde du spectacle?
Oui. Des fois, nous, on amène nos jeunes, mais c'est surtout des adultes. On a une partie de nos spectateurs qui, oui, ont une déficience visuelle et qui l'apprécient, l'humour, ça, c'est très oral. Ben oui, des fois, il va avoir les gestes et tout, mais en général, les blagues là, sont très orales. Donc, on a une partie de notre public qui ont une déficience visuelle, mais la plupart, c'est des donateurs, donc ils n'ont pas nécessairement de déficience visuelle.
Et est-ce que vous avez d'autres partenaires, justement, pour arriver à créer un gala? On parle d'une ou deux fois par année. Des grosses salles à accueillir quand même des artistes de renom. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous appuient là-dedans?
Bien, nous, c'est les productions Humour Aveugle qui organisent là, depuis toutes ces années le gala Humour pour nous. Donc, c'est une belle collaboration. Puis, justement, on a une belle notoriété. Les humoristes aiment ça revenir. Là. C'est un beau public parce que le public a une cause et tout. Donc, les humoristes souvent aiment bien, en plus de jouer au Saint-Denis, d'avoir un public déjà... pas comblé, mais c'est un beau public pour les humoristes.
Qui veut être là, en fait, oui, là, oui. Qui est déjà conquis d'avance. Et donc, on vous souhaite un très bon succès pour la prochaine édition. Si on veut plus d'informations, on peut aller sur le web à humouraveugle.ca où est-ce qu'on peut acheter des billets aussi.
Oui.
Et donc, avoir justement, voir les humoristes aussi qui sont
oui,
passés
à
travers les années. Beaucoup. À travers les années. Merci beaucoup, Sarah Rouleau. On se revoit dans un mois pour une autre chronique à Ça vaut le détour.
Avec plaisir.